Parfait. Bonjour à tous. C'est une joie de vous retrouver pour notre temps de culte ce matin encore. Bon, pour ceux qui étaient là à l'heure ce matin, Chloé a déjà dévoilé les réponses à toutes mes questions. Parce que j'avais une première question. Quel jour sommes-nous aujourd'hui ? La Pentecôte. Eh oui, exactement. Mais en fait, c'est quoi au juste la Pentecôte ? J'entends le Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit, effectivement, il y a un petit peu de ça. Mais pourquoi est-ce que c'est si important ? J'entends des petites choses intéressantes. Le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est vrai. On va essayer de voir un petit peu tout ça ce matin. Alors déjà, Pentecôte, qu'est-ce que ça veut dire ? Le terme lui-même. Pentecôte, ça veut dire 50e, dans le sens où c'est le 50e jour après la Pâque. Chez les Hébreux, est-ce que vous vous rappelez du nom que l'on donne à cette fête ? Alors, Pessah, c'est la Pâque. Le nom qu'on donne, c'est Shavuot. Et Shavuot, ça veut dire semaine, dans le sens où c'est une fête qui se déroule 7 semaines après Pessah, après la Pâque. C'est une fête que l'Ancien Testament appelle aussi la fête des semaines ou la fête des moissons. Et dans cette fête, il y a énormément de symboles. Alors, on ne va pas forcément tous les voir ce matin, parce que ces symboles, ils sont nombreux, que ce soit dans le judaïsme ou que ce soit chez les chrétiens. Alors, je vous propose d'aborder 3 de ces principaux symboles ensemble. On est d'accord ? Super. Commençons par le premier de ces symboles. C'est le renversement de la malédiction. Mais de quelle malédiction parle-t-on ? Voici ce que nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 11 et au verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Alors Shinéar, c'est un endroit qu'on va appeler plus tard aussi la Chaldée ou Babylone. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. » À cette époque, les humains ne parlaient qu'une seule langue, un seul langage. Ils s'en sont servis pour construire une ville et une tour, symbole de la rébellion contre Dieu. On est à l'époque de l'arrière-petit-fils de Noé. Bon, c'est un petit moment quand même. Mais on est à une époque où Noé et tous ceux qui ont survécu au déluge sont encore vivants et peuvent encore témoigner de ce déluge et de ce qui s'est passé et des raisons pour lesquelles il y a eu ce déluge. Mais cela, eh bien, ça n'a pas empêché la rébellion de prendre place. Et parfois, on peut agir de la même manière. Nous avons vécu les bénédictions du Seigneur. Nous avons vu sa main agir. Mais par nos choix, par nos décisions, par nos projets, nous pouvons nous placer en rébellion contre Dieu. Cette histoire de la tour de Babel, elle est ancienne. Mais la rébellion que nous pouvons nourrir parfois dans nos cœurs, malheureusement, elle est toujours bien réelle aujourd'hui. Dieu leur a laissé du temps pour changer de projet. Ils ont construit la ville, ils ont commencé à construire la tour. Et pendant tout ce temps-là, Dieu observait et attendait qu'ils changent d'attitude. De la même manière, Dieu fait preuve aussi de patience avec nous. Il voit nos cœurs rebelles, il voit nos projets qui s'éloignent de sa volonté. Il nous observe et il attend que nous changions d'attitude. Mais il vient un moment où Dieu ne fait pas que observer, Dieu agit. Et c'est ce que l'on voit dans Genèse chapitre 11, toujours au verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Il dit « Les voici qui forment un seul peuple et ont une même langue. » Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Les êtres humains ont donc été dispersés. Ils ne se comprenaient plus les uns et les autres. L'entente avait fait place à la confusion. Et c'est le sens du mot Babel. Babel, cela signifie confusion. Et cette malédiction de confusion des langues a continué jusqu'à aujourd'hui, on le voit. On ne parle pas tous la même langue. Il suffit de traverser les frontières et on est vite confronté à d'autres choses. Mais Dieu avait un plan, bien meilleur encore, puisque Dieu voulait renverser cette malédiction. Amen. Et il l'a fait à quelle date? Au jour de la Pentecôte. C'est la première Pentecôte après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On est dans le livre des Actes, quelques siècles, oui, bien quelques siècles après. Dans Actes 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Pourquoi sont-ils là? Ils sont là parce que c'est le moment de la Pentecôte, que c'est une des trois fêtes de pèlerinage où tous les Juifs sont appelés à se rendre dans ce lieu-là. Et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous de Galilée? Et comment les entendrons-nous? Les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Partes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, mais que veut dire ceci? Toutes les nations sont rassemblées à Jérusalem et chacun avait sa langue. Et alors qu'ils sont loin de leur maison, ils entendent des louanges à Dieu dans leur propre langue maternelle. Gloire à Dieu! La malédiction de la confusion des langues a été renversée par la bénédiction de Dieu, qui permet aux croyants de parler des langues qu'ils ne connaissent pas par la puissance du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui était déversé sur eux. Ce qu'ont vécu les disciples lors de cette Pentecôte, nous le vivons encore aujourd'hui. Amen. Mais on pourrait se dire, mais quoi? Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'on peut vivre encore ces choses-là? C'est ce que nous allons voir au travers du deuxième symbole de cette fête de Pentecôte. Ce deuxième symbole, c'est la nouvelle naissance. Dans le texte que nous avons lu, il est question de langue de feu. Mais est-ce que vous saviez que ce n'est pas la première fois que cette situation se produit? Ces langues de feu, en fait, sont un symbole d'alliance. C'est le symbole que Dieu a utilisé, par exemple, dans son alliance avec Abraham, avant même que Dieu lui donne un nouveau nom, le nom d'Abraham. On est dans Genèse au chapitre 15, au verset 17. Abraham a coupé certains animaux en deux. Et quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant et des flammes. Alors ces flammes, c'est très intéressant. Dans la Bible Chouraki, qui est une traduction plus littérale des textes hébreux d'origine, en fait, parle d'une torche de feu. C'est-à-dire une forme comparable, en fin de compte, à une langue, comme lors de la Pentecôte. Donc, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant et une torche de feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Ce même symbole, on le retrouve un peu plus tard. Lorsque Dieu fait alliance avec le peuple hébreu, Dieu leur a donné les 10 paroles, les 10 commandements. Et voici ce que nous trouvons écrit dans Exode 20, au verset 18. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette, et voyait les flammes de la montagne fumante. Dans la Bible Chouraki, ce même verset est traduit de cette façon. Tout le peuple voit les voix, les torches, la voix du chauffard, c'est-à-dire des trompettes, la montagne fumante, le peuple voit. Encore une fois, on retrouve ces torches. On pourrait dire ces langues de feu. Le peuple voit même des voix. Étonnant. Comment fait-on pour voir des voix? Mais cela peut nous rappeler cette parole du prophète Jérémie dans Jérémie 23, verset 29, qui dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» déclare l'Éternel. Pour les Juifs, ce jour de Exode 20, c'est le jour où le peuple d'Israël est né spirituellement. Ils n'étaient plus juste la descendance d'Abraham, ils sont devenus le peuple de Dieu. Cela a été comme une nouvelle naissance pour eux. Et encore aujourd'hui, les Juifs fêtent Shavuot, Pentecôte, en rappelant que c'est à cette même époque de l'année que Dieu leur a donné la Torah, c'est-à-dire la loi, on peut aussi dire les 5 premiers livres de la Bible, hein, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est un peu comme leur anniversaire de naissance spirituelle, en quelque sorte. Et pour nous, aujourd'hui, c'est aussi un symbole de nouvelle naissance. Jean-Baptiste l'avait annoncé. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a dit en parlant de Jésus et à propos du feu? Exactement, je l'ai entendu. On est dans Matthieu 3, verset 11. « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Baptiser, c'est immerger. Plonger entièrement. Jésus veut nous plonger entièrement dans le Saint-Esprit. Dieu avait écrit sa parole aux Hébreux sur des tablettes en pierre. Mais Dieu a un projet plus grand pour ceux qui veulent entrer dans cette nouvelle alliance avec lui. Jérémie, le prophète Jérémie en parlait déjà au chapitre 31, verset 33. « Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. » Je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. L'apôtre Paul aussi en parle. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Jésus lui-même avait parlé de cette nouvelle naissance à Nicodème. Nicodème, c'était un homme qui faisait partie du Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal religieux de Jérusalem. Il est venu à la rencontre de Jésus en pleine nuit, parce qu'il avait peur d'être reconnu. C'était pas très bien vu quand on avait ce type de position de suivre Jésus. Mais c'était une bonne occasion pour Jésus de lui parler de choses spirituelles importantes. Et Jésus lui dit... en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » La Pentecôte, c'est le moment où le Saint-Esprit est répandu sur les croyants, afin qu'ils puissent vivre cette nouvelle naissance. Amen. Et cette promesse, elle est pour tous les croyants, à travers toutes les époques. C'est ce que Pierre rappelle, juste après la Pentecôte, dans Actes 2, verset 38. Voici ce qu'il dit. Il commence en disant « Repentez-vous ». C'est-à-dire « Reconnaissons que nous sommes séparés de Dieu à cause du péché, à cause de la rébellion, à cause de notre désobéissance à Dieu. » Je viens de dire trois fois la même chose. « Et demandons pardon à Dieu. » Et changeons d'attitude, c'est tout ça la repentance. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin géographiquement, mais aussi au loin dans le temps, c'est-à-dire nous tous aujourd'hui. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Ainsi, la malédiction est renversée. Nous pouvons nous aussi louer Dieu dans des langues que nous ne connaissons pas, parce que Dieu nous a fait entrer dans cette nouvelle alliance, cette nouvelle naissance rendue possible par l'action du Saint-Esprit en nous. Dans tout cela, il y a aussi un symbole fondamental dont il faut se rappeler. Et c'est le troisième et dernier symbole que nous allons aborder ce matin. Ce troisième symbole, c'est l'unité des croyants. Juste avant que Dieu fasse alliance avec le peuple d'Israël, au travers du don de la Torah, voici ce que l'on peut lire. On est dans Exode 19, c'est-à-dire juste avant. Le jour même du troisième mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Le mot traduit par « camper » ici fait référence à l'unité qui lie le peuple à ce moment-là. On ne campe pas ensemble si on n'est pas unis. Et là, c'est rare hein, dans l'histoire du peuple d'Israël, quand on lit la suite, on se rend bien compte que ce n'est pas souvent qu'il y a l'unité, mais là, Dieu a choisi ce moment précis de l'histoire où le peuple est uni pour faire alliance avec eux. De la même manière, dans le livre des Actes, le texte commence en précisant « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. » Là aussi, Dieu s'est manifesté au milieu de l'unité des croyants. C'est essentiel. Et cette unité, ça n'a pas été l'essai d'un instant. C'est quelque chose qui a continué d'être un témoignage par la suite. On peut le voir dans Actes chapitre 4, verset 32. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Au début, les croyants, c'était essentiellement des juifs. Mais de plus en plus, ce sont des personnes qui ne sont pas d'origine juive, qui se mettent à croire. Et lorsque ces personnes placent de plus en plus leur espérance en Jésus, ça leur fait se poser des questions aux apôtres et aux autres croyants d'origine juive. Mais Pierre vient déclarer ceci dans Actes chapitre 15, verset 8, pour montrer qu'il y a l'unité, quelles que soient nos origines. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Nous croyons que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. L'apôtre Paul ajoute et se montre encore plus clair dans Galates chapitre 3, verset 26. « Vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ, l'unité des croyants. Dans Éphésiens 3, verset 1, Paul ajoute « Je vous encourage à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Supportez-vous, on pourrait dire « encouragez-vous les uns les autres dans l'amour. » « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. » Par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cette unité entre les croyants, elle est fondamentale, elle est essentielle. Ce n'est pas une option. Et aujourd'hui, nous sommes une église multisite, une église avec plusieurs adresses. Cette unité entre nous, elle est fondamentale et essentielle. Et cette unité, c'est quand même aussi un choix, en fin de compte, que nous devons faire. Le choix que nous faisons ensemble de nous unir. Pas pour la rébellion contre Dieu, comme ça a été le cas à Babel, surtout pas. Mais le choix que nous faisons ensemble de nous unir pour glorifier Dieu d'une même voix, d'un même cœur, d'un même esprit. Nous ne sommes pas définis par notre adresse, ni par la ville dans laquelle nous vivons, ni par notre métier. Notre identité, nous la trouvons en Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Frères et sœurs, co-héritiers du royaume de Dieu, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Dieu habite en chacun de nous. Alléluia. Nous sommes le temple de son Saint-Esprit. Et Dieu agit et veut agir au travers de chacun de nous comme il nous l'a promis. Amen. On arrive déjà à la conclusion. Ça passe vite le temps. Je termine ce message en rappelant ce que nous avons dit en introduction. Est-ce que vous vous rappelez des autres noms qu'on donne à la Pentecôte, à Shavuot ? La fête de la moisson, exactement. C'est là que je veux en venir. Est-ce que vous savez quelle est l'habitude dans les synagogues au jour de la Pentecôte ? Alors, ils lisent bien sûr la partie de Exode 20, mais ils lisent aussi un autre passage. Est-ce que vous savez de quel passage je parle ? Ah, c'est un mystère. En fait, à l'occasion de la Pentecôte, dans les synagogues, eh bien, on lit les quatre chapitres, du livre de Ruth. Et ce livre de Ruth, eh bien, c'est une histoire qui se passe durant la moisson. Elle se passe durant la moisson de l'orge, donc à l'époque de Pessah, et aussi pendant la moisson des blés, c'est-à-dire l'époque de Shavuot, de la Pentecôte. Et cette histoire de Ruth, eh bien, parle d'une femme qui ne connaissait pas Dieu, mais qui, au travers du témoignage de sa belle-mère, Naomi, a choisi de quitter son pays, de quitter ses traditions, de quitter ses coutumes, pour faire de l'Éternel son Dieu. Au début, elle est une femme en deuil, puisqu'elle a perdu son mari. À la fin, elle est une femme rachetée, qui entre dans l'alliance avec Dieu. Quelle grâce! Au milieu de la moisson de l'orge et du blé, il y a eu la moisson d'une âme. Soyons à notre tour, comme Naomi, la belle-mère de Ruth, l'a été, les témoins du Seigneur. Jésus nous y encourage. Dans Jean chapitre 4, verset 35, Jésus dit, « Voici, je vous le dis, levez les yeux. » Et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Jésus ne parle pas de l'orge ni du blé, hein, dans ces moments-là. Il parle des âmes qui ne sont pas encore sauvées, mais qui attendent d'avoir ce témoignage, d'avoir l'annonce de la bonne nouvelle. Jésus dit aussi, dans Luc chapitre 10, verset 2, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Qui sont les ouvriers ? C'est chacun d'entre nous, exactement. Nous sommes ces ouvriers, nous sommes ces témoins que Dieu envoie pour la moisson. Et nous ne sommes pas seuls. Dieu nous a équipés depuis la Pentecôte. Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez, et nous l'avons déjà reçu, une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, à Colomiers, à Tournefeuille, à Pibrac, à l'île Jourdain, au Burgos, à Saint-Lys, à Cornbarieux, à Dox, dans tout l'ouest toulousain et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors inclinons nos têtes ce matin pour remercier le Seigneur, pour le don de son esprit, pour cette nouvelle naissance, pour cet envoi dans la moisson, pour cette réconciliation que nous avons avec lui. Oh Seigneur éternel, merci mon Dieu pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu as vu nos projets qui s'éloignaient de toi et tu as eu de la patience pour nous permettre de retourner dans tes pas, de nous attacher à nouveau à toi. Merci mon Dieu pour cette grâce que tu as faite, de renverser la malédiction par ta bénédiction, Seigneur éternel. Merci pour ce don de pouvoir parler des langues que nous ne connaissons pas, pour témoigner dans des langues même que nous ne connaissons pas, mais qui parlent au cœur, qui parlent à ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci, mon Dieu, pour cette grâce. Merci, Seigneur éternel, parce que oui, tu nous as permis d'entrer dans cette nouvelle naissance, dans cette nouvelle naissance par ton esprit. Seigneur, ce n'est pas le fait d'un homme, c'est le fait de ta volonté, c'est le fait de ta toute-puissance. Merci, mon Dieu, pour ton Saint-Esprit déversé sur ton peuple, sur tous les croyants. Merci, mon Dieu, pour l'unité que tu places entre nous. Seigneur, mon Dieu, s'il y a des divisions, arrête-les, s'il te plaît, Seigneur, mon Dieu. Permets que l'unité soit restaurée. Que l'unité dans les familles soit restaurée, que l'unité dans les couples soit restaurée, que l'unité dans les familles soit restaurée, que l'unité dans ton Église soit pleine et entière, que nous puissions te louer, t'adorer d'un seul cœur, d'un seul esprit, d'une seule voix, Seigneur éternel, une voix même que l'on peut voir, Seigneur, comme ta parole qui est un feu, comme des langues de feu qui descendent sur nous, Seigneur éternel. Merci, mon Dieu, oui, pour ta grâce. Merci pour qui tu es. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Oui, tu nous as équipés pour la moisson, Seigneur éternel. Tu nous as équipés pour aller témoigner de ta part, partout où tu nous as placés, dans ton Église, oui, mais aussi dans nos foyers, dans nos familles, dans notre voisinage, dans notre lieu de travail, dans notre école, dans partout où tu nous envoies, ne serait-ce que là où nous allons faire nos courses, là où nous allons conduire, Seigneur, que la route ne soit plus une occasion d'agacement, mais une occasion de bénir ce que nous croisons, Seigneur éternel. Viens placer ta paix en nous. Viens placer ton esprit en nous, Seigneur éternel. Viens écrire ta parole sur nos cœurs, Seigneur mon Dieu, afin que lorsque nous ouvrons la bouche, ce ne soit plus de notre propre intelligence, mais ce soit ton esprit qui parle, Seigneur éternel. Merci, mon Dieu, pour ta grâce. Que ton nom soit élevé, soit glorifié. Merci pour tout, Jésus. Amen.